D'accord, commençons tout de suite parce qu'il y a vraiment de quoi avoir le vertige avec le document d'aujourd'hui.
Ah ça oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
En fait, c'est extrêmement rare de tomber sur un texte qui convoque dans la même foulée la théologie ultra pointue de Thomas d'Aquin et des blagues graveleuses qui font directement référence à des tables cassées dans le manga Dragon Ball Z.
C'est un grand écart rhétorique qui est assez absolu, ouais.
Exactement. Et c'est pile le cœur de notre exploration approfondie d'aujourd'hui. On va se concentrer sur une interview très récente, publiée le 10 février 2026, sur une plateforme en ligne qui s'appelle Serviam.
Tout à fait.
Et le document met en scène un individu qui se fait appeler Rex, présenté comme un des membres de l'équipe fondatrice de la plateforme. Il est interrogé par un certain Augustin J. Mais avant même de plonger dans les détails de ce texte, qui ressemble presque à un ovni politique, je crois qu'une mise au point très stricte s'impose sur ce qu'on a sous les yeux.
Oui, c'est la première chose à clarifier pour l'auditoire, et il faut être d'une limpidité totale là-dessus. Le texte qu'on va disséquer aujourd'hui véhicule des opinions politiques extrêmement marquées.
Extrêmement radicales même.
Voilà, on est en présence d'un discours qui s'inscrit très profondément dans la droite radicale, le nationalisme exacerbé, le catholicisme traditionnaliste le plus dur, et on va le voir très vite, qui flirte de manière totalement ouverte avec le fascisme.
Complètement décomplexé, oui.
Donc, l'objectif de notre décryptage n'est en aucun cas de cautionner, de valider ou de prendre parti pour ces idées. Pas du tout. Notre mission aujourd'hui est purement analytique et sociologique.
On met des gants de protection, en fait.
C'est exactement ça. On examine ce document comme un artefact radioactif en laboratoire. L'idée, c'est de comprendre comment ces idéologies se structurent aujourd'hui, quel vocabulaire elles utilisent et surtout comment elles tentent de recruter de nouvelles personnes.
L'approche est vraiment celle d'un scalpel. Du coup, pour commencer à dresser le portrait de ce fameux Rex, le texte nous plonge tout de suite dans son héritage familial. Et ça semble être la clé de voûte de toute sa construction.
C'est souvent le cas dans ces milieux, oui.
Il nous explique que son père était impliqué dans le milieu universitaire des années 80 et il utilise un terme très spécifique. Il parle de l'implication de son père dans le, je cite, « combat révisionniste ».
Ah oui, le mot est lâché. Pour quiconque écoute et n'a pas forcément le dictionnaire de l'extrême droite en tête, le révisionnisme dans ce contexte précis, c'est le terme poli qu'ils utilisent pour désigner le négationnisme.
La remise en cause des faits de la Seconde Guerre mondiale.
Exactement. Donc on part déjà sur une filiation militante qui n'est pas du tout anodine.
Non, c'est clair. Ensuite, d'un point de vue géographique, il dit que sa vie est partagée depuis 30 ans entre la capitale et le sud de la France. Il se décrit comme à moitié citadin et à moitié campagnard. Mais ce qui m'a vraiment fait bondir, c'est la façon dont il parle de sa propre enfance.
Le fameux paradoxe de la liberté ?
C'est ça, c'est fascinant. Il affirme avoir grandi dans un foyer aimant et totalement à l'abri du besoin financier. Mais il décrit cette jeunesse dorée presque comme une carence. Et pourquoi ? Parce qu'il juge son éducation trop libre.
C'est un point absolument central en sociologie politique pour comprendre ce type de parcours. Dans nos sociétés contemporaines, une éducation libre, sans violence, dans un foyer stable, c'est perçu comme l'idéal.
Bah oui, la plupart des gens rêvent de ça.
Sauf que pour cet individu, cette absence de contraintes très strictes a généré un vide béant. Il dit de manière très claire qu'il lui a manqué la morale catholique, la discipline et ce qu'il appelle le goût du labeur.
Il s'est retrouvé face au vide, en fait.
Ce vide laissé par cette liberté, ça l'a poussé à chercher un cadre d'ordre extrêmement rigide. Il a d'abord trouvé dans le militantisme nationaliste, juste après la mort de son père, avant de l'intérioriser complètement.
Et pour illustrer ce besoin vital d'ordre, on remarque qu'il ne va pas du tout chercher des modèles modérés. Quand on lui demande ses inspirations historiques, la liste fait vraiment froid dans le dos.
Oui, on sort totalement du conservatisme classique.
Il cite Benito Mussolini. Il cite le penseur espagnol Donoso Cortés. José Antonio Primo de Rivera, le fondateur de la Falange. Ou encore le belge Léon de Grelle.
Léon de Grelle, qui était quand même un officier SS et le leader de la collaboration en Belgique. C'est lourd de sens.
Pourquoi invoquer ce panthéon spécifique de figures autoritaires du monde néo-latin et germanique ?
Ça illustre une psychologie politique très classique. Face à l'anxiété que génère une société perçue comme trop libre ou décadente, la solution fantasmée, c'est la recherche d'une autorité verticale, une autorité inflexible. Le leader fasciste, c'est le remède perçu contre l'angoisse du libéralisme sociétal.
Qu'il cherche un mur sur lequel s'appuyer. D'ailleurs, quand il définit sa propre identité et son idéal politique, il rejette tout ce qui touche à la modernité. Il dit par exemple qu'il ne s'identifie pas comme trans. Mais il rejette aussi l'identité de, alors attention au jargon, pape moderniste matérialité,
Oui, alors là, on rentre dans de la théologie très pointue. Dire qu'un pape l'est seulement en matérialité, c'est typique des franges catholiques traditionalistes ou c'est des vacantistes.
Ça veut dire quoi concrètement pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça?
Leurs yeux, parce qu'il est jugé trop moderne.
D'accord. C'est une façon de rester ultra-catholique tout en rejetant l'Église actuelle. Et à la place de tout ça, il revendique, noir sur blanc, un, je cite, fascisme politique ferme. Mais il y ajoute une condition très précise. Ce fascisme doit viser le bien commun et être impérativement tempéré par un catholicisme intégral.
La fusion de ces deux concepts est redoutable. Le catholicisme intégral, ce n'est pas juste une pratique religieuse personnelle. C'est la volonté que la loi religieuse dicte la loi politique et civile.
L'État soumis à l'Église.
Exactement. En mariant le fascisme avec ce catholicisme, il sacralise son identité politique. Ce n'est plus juste un programme, c'est une mission divine de restauration.
Et la vision de la société de demain qu'il propose en découle directement. Il rêve d'une France patriarcale structurée autour de foyers qu'ils veulent à la fois aimants et savants. Il a cette ambition de recréer une aristocratie de la vertu.
Et il y a une dimension très identitaire derrière.
Totalement. Il parle de privilégier le bon Gaulois qu'il vienne du Nord ou du Sud. Et il projette ça sur une échelle plus large en parlant d'une Europe blanche, des patries charnelles. Mais ce qui m'a surpris, c'est son regret concernant la perte de ce qu'il appelle la génétique vigoureuse de 1914 ou 18. Il mêle constamment la génétique, l'ethnicité et la religion.
Oui, il essentialise tout, mais il y a un point très stratégique dans son discours économique qu'il faut souligner. Il ne s'adresse pas à tout le monde.
Ah oui, sa vision des classes sociales. Il décrit le prolétariat et la grande bourgeoisie comme étant, je reprends ses mots, caricaturaux et névrosés. Et du coup, il cible directement la classe moyenne.
C'est une tactique de recrutement très habile. La classe moyenne, aujourd'hui, c'est un groupe social qui peut souvent se sentir déclassé, coincé entre les élites et les classes populaires.
Et lui, il leur dit que la classe moyenne devrait se faire fasciste pour devenir l'avant-garde de la civilisation.
Voilà. Il leur offre un rôle de sauveur. Il leur dit de devenir l'intermédiaire lucide de la société. C'est puissant pour flatter l'ego de personnes en perte de repère.
Mais pour mobiliser cette classe moyenne, il faut des ennemis clairs. Et sa liste de rejets est absolue. Il commence par taper sur son propre camp, en rejetant une droite qu'il juge molle ou sionnarde, un terme au passage profondément antisémite, post-protestantisme, le libéralisme sécularisé, le modernisme catholique, l'individualisme, et bien sûr, la culture woke.
Qu'il décrit avec une formule très particulière d'ailleurs.
Oui, il appelle ça un ultra-communisme mental déguisé en éveil, qu'il connecte directement à un soi-disant prolongement judéo-maçonnique. Face à un rejet aussi absolu de notre époque, on se demande quel est son rapport au système politique actuel, à la démocratie par exemple.
Il y répond avec une phrase qui résume toute sa pensée de façon assez triviale.
Oui, il dit croire davantage aux burnes qu'aux urnes.
C'est ça. Ça montre un mépris total pour le processus électoral. Pour lui, la démocratie post-45 est verrouillée. Mais attention, ce n'est pas juste du rejet bête et méchant. Il y a un vrai pragmatisme derrière.
Il cite le juriste Carl Schmitt à ce propos.
Absolument. Carl Schmitt a théorisé que tout concept politique séculier majeur n'est au fond qu'un concept théologique laïcisé. En s'appuyant sur ça, Rex explique que si la droite radicale utilise parfois le vote, ce n'est qu'un levier tactique temporaire. Le but ultime, c'est d'imposer une vision religieuse, pas de gagner une élection pour faire des réformes.
Le vote n'est qu'un outil jetable. Et on le voit bien avec la mission de la plateforme Serviam. Leur cible, c'est très clair, ce sont les pères de famille et les jeunes mâles déterminés.
Et qu'est-ce qu'il leur recommande de faire concrètement?
Eh bien, pas de coller des affiches. Il encourage la pratique du sport, le travail manuel, l'entraide locale et surtout la formation de cercles militants fermés.
C'est le cœur de la stratégie métapolitique.
C'est-à-dire?
C'est l'idée de créer une contre-culture. Au lieu de perdre de l'énergie dans des élections qu'ils pensent truquées par le système, ils créent des microcosmes sociaux autosuffisants, des petites communautés fermées, pour préparer la reconquête.
Et c'est là qu'on arrive à la partie la plus vertigineuse de l'entretien. Le style, la rhétorique. C'est un grand écart permanent entre une érudition classique et la culture Internet la plus crasse.
C'est vrai que le mélange des genres est frappant.
D'un côté, il conseille des lectures très exigeantes. Balthazar Gracian pour former l'esprit. Pic de la Mirandole pour unir les doctrines thomistes et augustiniennes. Il recommande même l'univers de Narnia pour son côté christique. On a l'impression d'écouter un vieux théologien érudit.
Et puis, soudain, la bascule.
Une bascule totale vers une vulgarité masculine totalement assumée. La dernière question de l'intervieweur porte littéralement sur le, je cite, « service trois pièces de Rex », c'est-à-dire ses attributs masculins.
C'est lunaire de trouver ça à côté de Pic de la Mirandole.
Complètement lunaire. Et Rex répond en comparant le poids de son anatomie à 10 tonnes, en glissant une référence à Roland Ellie. Et il décrit comment il les pose sur la table pour imposer son style, allant jusqu'à dire qu'il brise la table comme dans le manga Dragon Ball Z.
C'est les codes bruts des forums internet anonymes.
Il va même faire un jeu de mots vulgaire en remplaçant les merveilles d'Alice par des braquemars. Et il termine en rejetant les distractions numériques, ou ce qu'il appelle, avec mépris, les bitchis. Comment on explique ce mélange effaré?
C'est stratégique. C'est le cœur de la communication de cette mouvance aujourd'hui. L'érudition classique sert à flatter l'intellect des recrues, à leur donner une légitimité d'aristocrate de la pensée.
Ils se sentent supérieurs.
Exactement. Mais l'humour gras, les codes manga et la vulgarité d'Internet, c'est l'hameçon. Ça attire une jeunesse masculine désabusée en parlant leur langue. L'hypermasculinité hardie et l'ironie rendent le fascisme beaucoup plus digeste et attractif pour eux.
C'est redoutablement bien calibré, en fait. Ça nous amène au bilan de cette exploration. On a vu comment un discours extrémiste contemporain se construit. Il exploite le vide idéologique d'une éducation trop libre. Il propose un cadre ultra strict mêlant fascisme et catholicisme.
Et il utilise cet emballage rhétorique hybride pour séduire. Comprendre cette architecture, c'est indispensable aujourd'hui. Sans jamais y adhérer, hein, évidemment. Il faut saisir ces dynamiques pour repérer comment on endoctrine à l'ère du numérique.
Ce qui me pousse à une réflexion finale pour quiconque nous écoute. On voit que ces idéologies réactionnaires arrivent à se packager avec les codes de la pop culture comme les mangas.
Oui, c'est déjà très efficace.
Mais que se passera-t-il demain, quand ces mêmes mouvements s'empareront pleinement des intelligences artificielles génératives ou des réalités virtuelles? Ils pourront créer des mondes simulés qui correspondent exactement à leur idéal patriarcal et clos. Comment nos démocraties pourront-elles répondre à des idéologies qui ne se contentent plus de raconter leur utopie, mais qui la feront vivre virtuellement à de futures recrues? C'est une vraie question pour les années à venir.